Mesdames et messieurs, merci pour l'invitation. Je vous remercie d'inviter un privatiste dans un groupe de constitutionnalistes éminents. J'aimerais faire un avertissement de la compassion. J'ai compassion avec vous, que vous devez souffrir pour 30 minutes de mon accent barbarique, je vais détruire la beauté éminente de votre langue. Deuxième avertissement, dans la discussion, je vais prendre la liberté de parler dans la lingua franca de notre monde et pas dans la lingua gallica, parce que mon français c'est trop pauvre. Moi je parle le français de la cuisine et je ne peux pas répondre adéquatement à la complexité énorme de vos critiques et questions. Troisième avertissement, je vais jouer une pièce de musique maintenant. Le compositeur de cette musique n'est pas Mozart ni Couperin, c'est un sociologue italo-américain qui s'appelle David Schulli, qui a composé une théorie étonnante, une théorie critique de la société non-marxiste. Alors, mon pièce, le thème est constitutionnalisme sociétal, 9 variations sur un thème de David Schulli. Prélude. La constitutionnalisation au-delà de l'État-nation. Ubi societas, ibi constitutio. Telle est la thèse centrale du pluralisme constitutionnel transnational. Partout où apparaissent des entités sociales dans la société mondiale, système fonctionnel, organisation formelle ou régimes transnationaux, des constitutions propres se forment qui disputent la prétention des constitutions étatiques au monopole. Tandis que le constitutionnalisme traditionnel se concentre toujours encore exclusivement sur les États-nations, des organisations internationales et des régimes transnationaux ont depuis longtemps commencé à développer des constitutions propres. L'Organisation mondiale du commerce, la gouvernance de l'Internet, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, des régimes transnationaux hybrides tels que la Lex Mercatoria, la Lex Financiaria, la Lex Sportiva, le Corporate Constitutionalism, la constitution d'une gouvernance privée pour les réseaux contractuels, mais aussi la réglementation globale du secteur de la santé, de la protection environnementale et de la protection de la culture sont des exemples significatif de ce que s'opère actuellement une constitutionnalisation des institutions transnationales. La constitutionnalisation au-delà de l'État-nation a lieu dans 2 directions différentes, dans le processus politique transnational au-delà des constitutions étatiques et en même temps, M. Macron, et en même temps, en dehors de la politique internationale, dans les secteurs privés de la société mondiale. Cette vue étendue du constitutionnalisme observe l'émergence au niveau social d'une multiplicité de constitutions civiles pour lesquelles le seul dénominateur serait le système de droit au lieu de la politique et le droit, désormais le droit et l'économie, le droit et la science, le droit et l'Internet. Toutefois, au sein du constitutionnalisme sociétal, on constate qu'une controverse à plusieurs voix est en cours qui concerne la question de savoir qui sont les sujets des constitutions non étatiques, quelle est l'origine de celles-ci, leur légitimation, leur portée et leur structure interne. Il semble fructueux de ne pas les réduire à un conflit entre des positions incompatibles, mais de la comprendre comme un thème avec des variations. Alors, les questions: quel est le principe de composition correspondant à chacune des variations? Second, quels sont les problèmes qui apparaissent dans leur mise en œuvre? Troisième, quels sont leurs motifs qu'il s'agit de conserver? Thème initial, David Shulley. C'est au sociologue américain David Shulley que l'on doit le mérite d'avoir proposé le thème du constitutionnalisme sociétal. En partant du dilemme de la rationalisation de la modernité présenté par Max Weber, il cherche à savoir s'il peut y avoir des forces opposées à la dérive massive de l'évolution actuelle qui implique la propagation croissante d'un autoritarisme au sein de la société. Non seulement autoritarisme de l'État, mais au sein de la société. La seule dynamique sociale qui, dans le passé, a effectivement freiné une telle dérive et qui peut lui opposer une résistance à l'avenir, est à trouver, selon Shulley, dans les institutions d'un societal constitutionalism. L'institutionnalisation des collegial formations, like this one here, que l'on peut reconnaître dans des formes d'organisation spécifiques des professions et dans d'autres institutions délibératives, productrices des normes et décisives. Maintenant, la première série des variations, l'expansion des rationalités partielles. Première variation, le bras long de la constitution étatique. Au sein de la tradition constitutionnelle se trouve encore une conception qui essaie de concevoir les constitutions sociétales sectorielles comme des expansions de la constitution étatique et qui soutient que dans la constitution de l'État, on trouve, en particulier dans la partie des droits fondamentaux et dans la réglementation sur les compétences législatives, les éléments d'une constitution économique, d'une constitution de la culture, d'une constitution des médias, d'une constitution de l'armée, d'une constitution de l'environnement, ou par Scholz, par exemple. Une autre tentative de plus grande ampleur, c'est Ulrich Preuss par exemple, s'efforce d'étendre la constitution étatique au-delà de la politique et de réinterpréter la constitution de l'ensemble de la société. Pas seulement la constitution de l'État, mais l'ensemble de la société. De tout temps, la constitution politique aurait toujours été en même temps la constitution de la société entière. Les principes de la constitution politique, en particulier les droits fondamentaux, ne seraient pas seulement formulés pour le processus politique de formation de la volonté, ils incarnent des principes normatifs envers lesquels la société même s'engage et qui doivent pénétrer tous les rapports sociaux. Autre auteur qui essaie de ramener les constitutions sociétales existantes dans l'espace transnational à des constitutions étatiques affrontent de grandes difficultés. L'expansion, ça c'est l'adeur au fil d'Echner, l'expansion des constitutions étatiques au-delà des frontières nationales, telle est la formule employée à expliquer l'existence indiscutable de la constitutionnalité transnationale. Tous les problèmes constitutionnels qui apparaissent en dehors des États-nations, tels les questions concernant les droits fondamentaux des usagers de l'Internet ou celles relatives aux garanties de l'état de droit dans les procédures d'arbitrage seraient résolues par le fait que les principes des États nationaux se sont étendus, qu'est-ce que ça veut dire, étendus aux espaces transnationaux. Toutes les versions de cet étatisme constitutionnel sociétal, étatisme constitutionnalisme société un peu paradoxale, cette formule, qui étend ses principes aux constitutions sociétales sous-estime cependant de façon systématique le potentiel constitutionnel particulier des institutions sociales. Il y a une explication théorique à leur autoconstitutionnalisation. La différenciation fonctionnelle de la société n'est pas une question fondamentale des décisions politiques. Pas une décision politique, mais un processus évolutif complexe d'où il ressort progressivement des distinctions directrices, des idées directrices, des distinctions directrices qui forment des institutions spécialisées selon leur logique propre. Dans ce processus, des systèmes fonctionnels se constituent eux-mêmes, ce n'est pas une question légale, en déterminant leur identité propre à partir des sémantiques élaborées de l'autodonation, autodonation de sens, de la réflexion et de l'autonomie. L'élément à retenir, somme toute, des variations étatiques du constitutionnalisme sociétal est que les constitutions étatiques demeurent les grands modèles, le grand modèle historique des processus de constitutionnalisation. Elles ont produit un riche réservoir d'institutions de droit constitutionnel de façon proéminente, la séparation des pouvoirs, l'état des droits, la démocratie et les droits fondamentaux, auxquels d'autres constitutions sociétales peuvent se rapporter tout en procédant à leur généralisation et leur réciprocation. Alors, ce n'est pas la même chose, hein, les constitutions étatiques et constitutionnelles, comme a dit hier aussi à ce professeur Cassese, il y a des différences. Et la méthode est la généralisation et la réspécification pour les nouveaux contextes. Deuxième variation, l'expansion du politique. Maintenant, on parle d'État, mais du politique. Selon les analyses qui repèrent de façon empirique l'indépendance des constitutions sociétales par rapport à l'État, l'apparition des constitutions sociétales est due à une dissociation de la politique et de l'État. Le système politique dans le processus de globalisation s'est étendu au-delà du domaine étatique vers le politique international et en même temps, Macron du nouveau, vers des domaines mondiaux. D'après Thornhill, on peut identifier empiriquement des micro-constitutions dans la société mondiale structurées de façon plurielle qui formalisent des processus de pouvoir à l'intérieur de la société, qui ne sont pas en réalité des constitutions étatiques, mais bien des constitutions du pouvoir politique dans la société. Le problème ensuite est de devoir néanmoins opérer un rétrécissement en repérant les constitutions sociétales uniquement dans les processus du pouvoir politique. On devrait identifier des réflexions politiques autonomes et variées dans les différents contextes qu'il s'agit de constitutionnaliser. Celles-ci sont effectivement un caractère public, non privé, caractère public catégorique. Mais ce caractère public n'est pas nécessairement lié à des processus de pouvoir politique. La politique des banques centrales, celle des organisations scientifiques et des cours constitutionnels ne peuvent pas être conçues simplement comme des processus partiels prenant place au sein du processus d'édification du pouvoir politique, dont le but est la production des décisions collectives. Elles doivent être considérées comme les politiques de réflexion d'institutions sociales. Alors, la politisation de la société, hein, c'est le problème. Il y a cependant un motif dans les variations du thème de Thornhill qui devrait être absolument conservé. Selon Thornhill, ce que font les constitutions est formaliser le médium de communication du pouvoir. C'est une pensée extrêmement importante. Les constitutions formalisent les médias de communication de façon très, très différente dans la médialité de droit. Lors des divers processus autonomes de constitutionnalisation, il n'y a pas que le médium du pouvoir qui est formalisé dans la politique. Ce sont également les médias de l'argent, du savoir, du droit, de l'information, la communication digitale dans leur domaine d'action correspondant. Troisième variation, rational choice everywhere. Les théories de la constitution économique, Buchanan par exemple, développent une version plus radicale du constitutionnalisme sociétal. Elles désolidarisent définitivement les constitutions de l'État, de la politique, du pouvoir ou de la politique internationale. Elle les saisissent comme des ordres sociaux autonomes, en particulier dans le cas des organisations économiques et des marchés. À mon sens étroit, le Conseil de constitution est appliqué aux normes fondamentales de l'agir économique authentique. À mon sens large, en revanche, les constitutions sont repérées dans tous les groupements sociaux, même non économiques, qui sont dits obéir à la logique économique du « rational choice ». On doit mener une critique aussi de ces conceptions pour leur impérialisme économique, quoi qu'il soit de type économique ou, cette fois, tout effort prétendant soumettre les structures internes de la religion, de l'art, des médias, de l'information ou de l'amour au principe d'une constitution économique ou prétendant les évaluer uniquement à l'aide des critères du « rational choice » causerait une violence insupportable à leur rationalité propre et leur normativité propre, aussi bien qu'à une orientation sociale commune. Mais les théories de la constitution économique laissent transparaître un motif qui mérite d'être conservé lorsqu'elles insistent sur le fait que les constitutions ne se rencontrent pas que dans des configurations politiques ou juridiques, mais aussi dans le domaine économique et au-delà, dans toutes les institutions de la société. Quatrième variation, summum jus. Si le principe de composition des variations présentées jusqu'ici consistait à rapporter les constitutions sociétales à l'expansion, soit du politique, soit de l'économique, une autre variation en fait de même avec l'expansion du juridique, et plus généralement de l'institutionnel normatif. Cette variation prolonge aussi l'héritage de l'institutionnalisme qui accordait aussi un caractère juridique aux normes des institutions sociales. Et elle poursuit cela au niveau constitutionnel en identifiant des autoconstitutionnalisations dans les institutions non étatiques. Des juristes de droit international travaillent également dans cette perspective institutionnelle et définissent la production des normes juridiques de rang supérieur dans les organisations internationales et dans les self-contained regimes comme un pluralisme constitutionnel au-delà de l'État national. Neil Walker, par exemple. L'institutionnalisme ne lui-même pas exempt des tendances réductionnistes. Le danger d'une vie institutionnelle tient à ce qu'elle restreint de façon formaliste la perspective en se focalisant sur les normes juridiques, de type étatique ou non étatique, et qu'elle néglige la dynamique sociale qui anime la constitutionnalisation sociétale. Le motif à conserver de l'institutionnalisme est sa manière d'aiguiser le regard pour identifier avec précision l'endroit de leur liaison, de la liaison entre le droit et le système social correspondant. En effet, en tant qu'ensemble des normes, les institutions permettent l'existence d'un contact étroit entre des normes sociales fondamentales et des normes juridiques constitutionnelles, et elles permettent de comprendre le processus de constitutionnalisation comme une traduction s'effectuant dans les deux sens. Maintenant, je parle de la deuxième série des variations, la constitution globale. Cinquième variation, la constitution sociétale holiste. Les variations suivantes du thème de Schulli ont besoin d'un autre principe de composition pour la constitutionnalisation sociétale, l'unité, prétendue indissoluble de la constitution. Les constitutions nationales prétendent soumettre catégoriquement et complètement toutes les activités de l'État à leurs exigences de régulation, dita Grimm. Ces idées sont donc transposées aux constitutions sociétales en ayant pour conséquence que l'on postule à l'inverse d'un pluralisme constitutionnel transnational une constitution homogène qui n'est désormais plus simplement celle de l'État, mais de l'ensemble de la société, ou même encore une constitution homogène de la société mondiale. En droit international, comme en philosophie politique, divers auteurs défendent l'idée selon laquelle la constitutionnalisation du droit international que l'on observe à l'heure actuelle est en mesure de produire un ordre constitutionnel cosmopolitique soit une constitution homogène pour l'ensemble de la société mondiale. Ils érigent la communauté internationale en référence d'un droit constitutionnel mondial émergent. Habermas et Höfel du nom ici. Que ces représentations d'une constitution globale compréhensive soient désespérément idéalistes et soient plus portées par des rêves que par des analyses réalistes n'a pas besoin d'être justifié davantage. Mais ces exagérations cosmopolitiques cherchent à réaliser aussi un motif qui mérite quand même d'être conservé, celui de l'intégration. Celui de l'intégration grâce à la Constitution. Certes, le constitutionnalisme sociétal n'a pas besoin de chercher en vain l'unité institutionnelle d'une constitution sociétale mondiale, mais il doit se poser la question de l'intégration ou de la coordination d'une pluralité d'ordres constitutionnels différents. Sixième variation, la constitution comme imagination collective. C'est Vesting, par exemple. Sauver l'unité indissoluble d'une constitution de l'ensemble de la société est finalement aussi l'objectif des théories qui mettent la fonction symbolique des constitutions au premier plan, en lieu et place de leur réalité institutionnelle. On tient contrefactuellement à l'idée d'une unité de la Constitution, même si elle doit se réduire à exister simplement comme le mythe fondateur d'un collectif, qu'il se soit la nation ou la communauté internationale. Cette constitution unitaire purement fictionnelle est pourtant efficace et donc considérée comme absolument compatible avec une quantité de constitutions dérivées sectorielles. Qu'un tel texte culturel sans institutionnalisation dure puisse encore valoir comme constitution en un sens étroit paraît tout à fait problématique. Quand sans institutions réelles qui ne font pas que symboliser l'unité mais qui produisent aussi pratiquement dans le processus de discussion des décisions permanentes, l'unité constitutionnelle demeure une simple fiction. Un élément est à retenir de cette théorie fictionnelle de la Constitution, l'idée selon laquelle, avec leur Constitution, les ordres sociaux ne font pas que produire du droit positif et régler des conflits, mais se reconnaissent en même temps, grâce à leur Constitution, comme un collectif uni par un mythe fondateur. Maintenant, je vais dans la partie finale, Unitas Multiplex. Pour cette dernière partie, il reste à tester trois autres variations du thème de Schulli. Elles doivent accueillir, réunir et poursuivre les motifs qui ont été mis en évidence dans les variations précédentes et qui valent la peine d'être conservées et développées. Alors, c'est plus ou moins ma conception. Septième variation, constitution sectorielle et méta-constitution. Les variations du deuxième groupe ont souligné à juste titre que c'est précisément l'existence d'une pluralité de constitutions sectorielles qui suscite l'interrogation sur l'unité de la Constitution. Le pluralisme se mousse-t-il dans cette situation où des constitutions coexistent sans relation entre elles, ou bien se forme-t-il ici d'une manière ou d'une autre une unité constitutionnelle? La position d'un transconstitutionnalisme devrait être réalisée et en même temps exigeante sur le plan normatif, par différence nette d'ailleurs avec le concept du même nom de Neves. Elle se compose de quatre éléments. Premier élément, une constitution mondiale homogène prend forme en réalité seulement comme méta-constitution au-delà des constitutions transnationales sectorielles. Deuxième, celle-ci n'établit aucun principe constitutionnel substantiel, mais se contente d'établir en cette qualité de constitution des collisions, des principes et des règles pour les conflits entre les constitutions sociétales sectorielles. Troisième, plus important encore, la métaconstitution ne se constitue pas de façon hiérarchique comme une institution tierce autonome qui, telle une instance tierce au-dessus des constitutions sectorielles, résoudrait leurs conflits, mais de façon hiérarchique dans les décisions des constitutions sectorielles elles-mêmes, comme dans le droit international privé. La métaconstitution coordonnerait paradoxalement de manière accrue l'intérieur des sphères globales. Quatrième, ces décisions se réalisent soit dans des activités de coopération et de négociation des constitutions sectorielles, soit dans les normes de collision, lesquelles développent elles-mêmes les constitutions sectorielles particulières. Ces tendances peuvent s'observer empiriquement sous la forme d'une constitution des collisions dans la célèbre War of Judges, le dialogue entre les juges, pratiquement war, une bataille, qui présente les conflits entre les constitutions des États-nations et la constitution de l'Union européenne comme un judicial dialogue entre la Cour de justice européenne et les cours constitutionnels des États-nationaux. Les décisions sur les collisions sont toujours prises par l'un des tribunaux concernés, et pas une troisième instance. Mais ils réagissent les uns aux autres et accueillent les arguments des autres tribunaux de la même manière qu'en common law, un droit qui se développe décision par décision par décision par décision. Des tendances analogues se trouvent dans les collisions des normes des régimes transnationaux, ce qui est particulièrement évident dans le cas de l'OMC, laquelle, dans la jurisprudence relative au Free Trade and Environment Regulations, Santé, and so on, développe un droit autonome de collision qui reçoit à partir de sa propre perspective des exigences normatives d'autres régimes. D'un point de vue historique, une telle métaconstitution transnationale peut faire écho à la riche tradition du droit international privé. Dans des situations analogues où des ordres juridiques nationaux se trouvent en collision sans instance tierce, les ordres juridiques concernés ont développé chacun pour soi une foule de normes de collision. Quant à savoir s'il convient d'utiliser le potentiel du droit international privé pour les conflits entre les constitutions transnationales et le modifier pour la nouvelle situation historique, c'est fait aujourd'hui l'objet d'une discussion intense. Il s'agit également de formuler à nouveau frais les deux principes fondamentaux opposés du droit privé pour la relation existante entre les constitutions transnationales, reconnaissance mutuelle et ordre public. Le principe de la reconnaissance mutuelle ne signifie pas seulement que les constitutions transnationales se tolèrent réciproquement les unes les autres. La demande supplémentaire consiste en ce que les constitutions réalisent le principe de la constitutional responsiveness et développent des normes matérielles qui combinent sous la forme d'un compromis de demandes de constitutions qui sont en conflit les unes avec les autres. La horatia muvat est très important dans cette chambre. Le concept juridique d'ordre public transnational s'est entre-temps établi comme principe d'un droit de collision qui doit aussi être appliqué dans le cadre du pluralisme constitutionnel transnational. Le principe n'a pas pour but, comme l'ordre public national, de protéger les fondements d'ordre juridique domestique d'intrusion étrangère. L'ordre public transnational réglemente le rapport qu'entretiennent les constitutions sectorielles avec l'ensemble de la société. La caractéristique de ce principe est que chacune des constitutions concernées acquiert à partir de sa perspective, c'est important, de sa perspective relative, un ordre public transnational. Huitième variation, nomos et récit. Robert Cover formule les choses ainsi pour la constitution: For every constitution, there is an epic. For each decalogue is scripture. Il saisit ainsi à juste titre le rapport difficile entre les constitutions sectorielles institutionnalisées et la méta-constitution fictive, et cela précisément non pas comme une structure à deux niveaux, mais comme leur interpénétration à un niveau unique, le niveau des constitutions sectorielles. D'une part, la fiction de l'unité ne doit pas être entendue comme si la métaconstitution contenait elle-même des principes substantiels. La métaconstitution globale ne concerne que les procédures et les principes de la collision, de la coopération et de la confrontation. D'autre part, la fiction de l'unité n'est pas seulement créée par des récits, mais aussi par le nomos lui-même, dans les pratiques de décision institutionnelle des constitutions sectorielles, quand elles tranchent sur les collisions. Il se développe chaque fois dans les constitutions sectorielles, aussi bien que dans la méta-constitution des collisions, un rapport autonome entre nomos et récit. Tandis que le nomos des constitutions sectorielles expulse des récits variés des normativités sectorielles substantielles, le récit d'une intégration par la procédure se forme dans le nomos de la constitution des collisions. Neuvième et dernière variation, communication autosubversive. On arrive au noyau interne de la constitution qui est dans une dernière variation du thème de Schulli, lorsque, comme Thornhill, on reconnaît la formalisation du médium de communication, comme étant le critère décisif de la constitutionnalisation. En effet, la formalisation n'est pas atteinte simplement par la production de formes juridiques, mais ce qui est plus important encore est qu'un rapport autoréférentiel est produit qu'un médium de communication s'applique à lui-même. La réflexivité d'un médium signifie que des opérations orientées par un médium sont appliquées au médium lui-même. Dans le domaine de la politique, cela veut dire l'application du pouvoir au pouvoir. Alors, séparation du pouvoir, trois fondamentaux. Dans le domaine du droit, l'application des normes juridiques à des normes juridiques. Procédures législatives, règles d'organisation judiciaire. En économie, l'application d'opérations monétaires à des opérations monétaires. Les mesures de la banque centrale. Ce n'est pas de pouvoir, ce n'est pas de droit, mais ce sont les opérations monétaires qui s'appliquent à les opérations monétaires. En science, l'application d'opérations épistémiques à des opérations épistémiques. Méthodologie, épistémologie, théorie de la connaissance. Ce type de formalisation, avec les normes juridiques correspondantes, produit des constitutions, la constitution étatique, économique, constitution de la science et autres constitutions sociétales. La formalisation a des effets constitutifs sur les institutions constitutionnelles et en même temps, de façon paradoxale, des effets autolimitatifs et en même autosubversifs. Et ces effets paradoxaux de la réflexivité médiale importent aujourd'hui en particulier dans la crise écologique actuelle, car si les effets expansionnistes du pouvoir, de l'argent, des technologies et du droit doivent être limités, une particularité de la réflexivité médiale joue alors un rôle central comme contre-institution, face aux tendances expansionnistes des systèmes, sa capacité à l'auto-subversion. Ce n'est pas seulement le système économique qui s'expande, mais les tendances expansionnistes se trouvent dans la politique, dans le droit, dans la médecine. Pour les constitutions, c'est une formulation inhabituelle, surtout si l'on songe que les constitutions donnent des garanties de stabilité à des institutions durables dans chaque domaine social. Mais le paradoxe des constitutions consiste en ceci, qu'elles contribuent activement à se transcender elle-même, à se transcender elle-même. Les constitutional moments, Bruce Ackerman, sont des moments forts de l'histoire constitutionnelle lors desquels la réflexivité médiale déclenche une dynamique interne auto-subversive. C'est vous, madame. Lors des moments constitutionnels, un système social proteste contre sa propre clôture. Lors des moments constitutionnels, un système social proteste contre sa propre clôture. Et ainsi, il ne s'agit pas seulement des grands événements comme la Révolution française ou la Révolution copernicienne, mais aussi des bouleversements beaucoup moins spectaculaires qui transforment jour par jour les constitutions étatiques et sociétales. Les fonctions constitutives et limitatives des constitutions ne sont pas fournies en priorité par les normes juridiques, mais par la réflexivité des médias sociaux de communication. C'est très important pour nos juristes. Le droit n'est efficace ici que de façon subsidiaire, en soutenant cette réflexivité et dans le meilleur des cas en l'imposant. Sa contribution consiste à institutionnaliser la réflexivité médiale vraiment décisive à l'intérieur des domaines sociaux, différents dans la mesure où il stipule des procédures d'autolimitation et reconstruit des normes sociales comme des normes des droits constitutionnels. La politique et les mouvements sociaux qui, à l'aide de la constitutionnalisation, cherchent à limiter les tendances expansionnistes de l'économie, de la technologie, de la médecine ou des nouveaux médias de l'information doivent s'adapter à cette situation. Ils sont incapables de mettre en place la limitation recherchée en usant d'interventions externes. Ils dépendent pour cela de la contrainte salutaire à l'autosubversion. Merci beaucoup pour votre attention.